kelen tontot.
Le vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Bienvenue dans l'émission Check Me Load. Nous sommes le 17 septembre et j'ai quelques pépites à partager avec vous. Nous allons donc laisser un petit peu de côté notre focus sur les sorties de cet été pour nous consacrer à une sélection de disques qui paraissent tous aujourd'hui, dont un vous sera présenté avec l'interview du groupe qui en est l'auteur. Le groupe en question, c'est Fishing With Guns, un combo parisien qui fait son grand retour avec l'EP Under the Silver Lake. C'est un véritable uppercut sonore et on sera tout à l'heure en ligne avec Christophe qui est un des deux guitaristes. Ce sera d'ici environ une demi-heure, le temps de vous présenter cette petite sélection de disques dont le premier est signé de la nouvelle sensation qui nous vient du Canada, j'ai nommé Spirit Box. Donc ensuite on prendra la direction de la Grande-Bretagne où nous attend une bonne dose de sauvagerie avec le nouvel album de Carcass, et puis on fera une escale dans les contrées heavy metal germaniques avec les nouvelles productions de Rage et de Brainstorm, et puis enfin après l'interview bien sûr de Fishing With Guns, il sera temps de se dire au revoir sur un air de reprise avec la rubrique Sortez Cover, hein, comme toutes les semaines. Et cette semaine, on s'intéressera de nouveau à la compilation The Metallica Blacklist qui est parue vendredi dernier. Vous voyez, hein, la prochaine heure, elle s'annonce bien chargée. Ce que je vous propose, c'est de lancer tout de suite les hostilités avec un album très attendu depuis plusieurs mois maintenant. Il s'agit d'Eternal Blue, du jeune groupe Spirit Box, qui l'an dernier avait créé un véritable buzz sur YouTube avec la chanson Holy Roller et qui a depuis sorti plusieurs autres titres qui n'ont fait qu'attiser notre impatience de voir arriver ce tout premier album. Et attention, spoiler alerte, eh bien on n'est pas déçu. Donc Spirit Box, c'est un groupe originaire de l'île de Vancouver. Le nom du groupe, ceux qui aiment le paranormal auront sûrement fait le rapprochement, ça fait référence à un petit appareil qu'utilisent les chasseurs de fantômes. Et donc la formation, elle existe depuis 2016. Elle est née sous l'impulsion d'un couple, à la ville comme à la scène, qui est composé de la charismatique chanteuse Courtney Laplante et du guitariste Mike Stringer. Le duo va devenir ensuite trio en 2018 avec l'arrivée de Bill Crook à la basse. Notons d'ailleurs au passage que le couple Courtney Laplante et Mike Stringer ont auparavant tous les deux officié au sein du groupe de metalcore américain Je vais essayer de vous le prononcer correctement parce que c'est écrit en un seul mot. I wrestled a bear once. Et que chacun des trois membres de Spirit Box a fait ses armes au sein du collectif indépendant canadien, le West Coast Canadian Metalcore Royalty. Mais revenons-en à Spirit Box. C'est un groupe qui pratique un metalcore progressif aux accents djent et post-rock et qui nous offre un premier aperçu de son univers musical à travers un premier EP au titre éponyme. Ça sort en 2017. Et puis ensuite, il y aura une kyrielle de singles, dont Holy Roller, qui était paru en juin 2020, qui va vite affoler le compteur de vues sur YouTube. Et le succès du morceau sera tel qu'il sera enregistré de nouveau, mais en featuring avec Ryo Kinoshita, le chanteur du combo de metalcore japonais Crystal Lake. Et si Spirit Box nous avait totalement conquis avec ses parutions single depuis un an, on pouvait légitimement se demander si le groupe arriverait à nous convaincre de façon ferme et définitive avec le format album, hein, qui est un petit peu plus casse-gueule, puisque là, il fallait qu'il nous propose une œuvre à la fois homogène, inspirée, bien écrite, bien produite, et même si ça peut paraître trop beau pour être vrai, eh bien absolument toutes les qualités sont réunies, toutes les qualités que je viens d'énumérer, on les trouve dans Eternal Blue, qui paraît donc aujourd'hui. Alors non seulement ce premier album s'inscrit totalement dans l'air du temps, avec son mélange excellemment bien calibré d'influences djent et de metalcore, le tout teinté avec quelques résurgences new metal. Il y a aussi cette production qui est massive, et puis on ressent aussi à travers chacun des 12 compos du disque le talent immense du trio, qui a su ne pas tomber dans l'écueil d'un djent trop complexe, qui rebute trop souvent un public non amateur. Et voilà quoi, ça c'est bien, parce que si c'est votre cas par exemple, ça vous empêchera pas d'apprécier ce premier album de Spirit Box qui est extrêmement accessible, et vous tomberez forcément sous le charme de l'incroyable Courtney et la Plante, qui alterne majestueusement growl implacable et douce voix enjôleuse. Et ça, c'est pas sans rappeler une certaine Tatiana Schmaliouk, et pour ceux qui n'ont pas la ref, je fais bien évidemment c'est de la chanteuse de Ginger dont je parle. Enfin bref, voilà. Avec Eternal Blue, Spirit Box nous dégaine direct un chef-d'œuvre qu'en annonce certainement plein d'autres. À mon avis, les festivals vont s'arracher nos petits Canadiens. Voici tout de suite un extrait de leur premier album avec le titre Hurt You. Hurt You de Spirit Box sur Back FM dans l'émission Check Me Load. Le trio canadien mené par la talentueuse Courtney Laplante sort aujourd'hui son premier album intitulé Eternal Blue et c'est un album extrêmement réussi que je vous conseille si vous aimez un peu tous ces groupes là de la nouvelle génération qui mélangent du djent avec des sons un peu plus extrêmes, qui font des chants mélodieux mais avec du growl. Je pense qu'il y a moyen de kiffer avec ce premier album Eternal Blue. Et si ce son était trop doux pour vos oreilles, bande de sauvages, voici de quoi rassasier votre soif de brutalité avec Torn Arteries, le nouvel album des Anglais de Carcass. Carcass qui nous avait inondé pour la dernière fois de son death mellow sanglant à tendance gore il y a déjà 8 ans, puisque son dernier album en date jusqu'à aujourd'hui, c'était le très réussi Surgical Steel paru en 2013, qui concrétisait enfin la reformation du groupe qui était officiellement réunis depuis 2007. Alors, Carcass, c'est un groupe qui a été fondé il y a quand même une paille maintenant, parce que c'était dans les années 80, au milieu des années 80, à Liverpool, et à l'initiative de ce groupe, on retrouve le guitariste Bill Steer et le chanteur-bassiste Jeff Walker, qui tiennent encore la barre du combo à ce jour. Carcass, c'est un groupe de métal extrême qui distille un mélange de death metal et de grindcore, avec un son qui, à ses débuts, se rapproche énormément de celui de Repulsion. Entre 88 et 95, Carcass sort 5 albums, parmi lesquels on trouve de véritables références en matière de grind, comme par exemple Reek of Putrefaction en 88 ou Symphonies of Sickness en 89, ou des références en matière de death metal, avec notamment Necrotism Discounting the Insalubrious en 91 ou Earthwork en 93. Inutile donc de préciser à quel point la déception a été grande pour les fans lorsque le combo britannique a annoncé sa séparation en 96, des fans qui n'ont cessé d'espérer une reformation du groupe et dont le vœu a finalement été exaucé 11 ans plus tard lorsque Carcass est revenu aux affaires, d'abord pour quelques concerts qui ont été joués sold out, puis en version studio avec l'album Surgical Steel donc que j'évoquais tout à l'heure, avec une prod signée Colin Richardson. Et donc le résultat fut au-delà des espérances des fans du combo britannique qui, je pense, n'ont pas fini de se réjouir avec la sortie aujourd'hui de Torn Arteries, puisque loin de se calmer, Carcass met la barre encore plus haut. Enregistré en plusieurs sessions à cause du Covid, ce 7e méfait de Carcass, il a eu tout le temps de maturer afin de nous offrir ce mélange aussi habile qu'explosif de brutalité et de mélodicité qui donne à l'ensemble une saveur à la fois fine et forte, digne de la meilleure moutarde de Dijon. Loin de se reposer sur les codes du genre, qu'il a pourtant contribué à établir, Carcass n'a pas hésité à puiser encore une fois dans ses ressources créatrices pour faire de Torn Arteries un album varié, moderne, organique, innovant et percutant qui, à l'image de son artwork qui fait référence à l'œuvre potagère de l'artiste Archimboldo, possède tous les atouts pour devenir un chef-d'œuvre du genre. En tout cas, il s'inscrit d'ores et déjà directement parmi les incontournables de cet automne 2021. Voici un extrait de Torn Arteries avec le titre Kelly's Meat Emporium.
Your soul. Who could you lose?
Écoutez l'émission Check Me Load sur Bike FM avec à l'instant Kelly Smith Emporium du groupe Carcass, le combo anglais qui n'a pas son pareil pour ajouter quelques touches de grâce mélodique à son death hargneux. Sort aujourd'hui l'album Torn Arteries qui succède brillamment à Surgical Steel qui était paru il y a 8 ans. D'ici environ un quart d'heure à peine, nous serons en compagnie de Christophe, guitariste et membre fondateur du groupe parisien Fishing with Guns, pour découvrir l'EP Under the Silver Lake qui paraît également ce 17 septembre. Mais avant, je vais vous balancer une salve de deux nouveautés power metal qui nous viennent tout droit d'Allemagne, qui elles aussi sont toutes fraîches du jour. La première, elle a pour titre Resurrection Day et elle est signée du groupe Rage qui, malgré la crise sanitaire, garde son rythme d'environ un nouvel album tous les un an et demi, deux ans. C'est dans la région industrielle de la Ruhr que Rage a vu le jour en 84. Il a été fondé par le chanteur-bassiste Peter Wagner, dit Peavy, qui, depuis cette époque, en est le compositeur et seul membre permanent. Malgré la dimension symphonique de son power metal, Rage, c'est un groupe qui possède une identité musicale très marquée, qui va le distinguer fortement de la vague heavy mélodique allemande, qui va être portée à peu près à la même époque par Halloween, par Gamma Ray. Et si le combo de Peavy va commencer à rencontrer un petit succès d'estime dans son pays dès la sortie de Perfect Man en 88, c'est avec Trapped, son sixième album qui paraît en 88, que le groupe va obtenir enfin une reconnaissance internationale. Alors 4 ans plus tard, ils vont sortir l'album Lingua Mortis et ça va être un album qui va être totalement innovant puisque ça va devenir le premier groupe de heavy metal allemand Rage à enregistrer avec un orchestre symphonique. Et du coup, on retrouvera ensuite ces éléments classiques très régulièrement dans ces albums, comme par exemple dans l'album 13 qui date de 98, qui est un des plus gros succès du groupe. Avec la sortie aujourd'hui de Resurrection Day, Rage est désormais à la tête d'une discographie composée de 25 albums studio, ce qui est considérable quand on sait qu'un mastodonte comme Iron Maiden en a sorti entre guillemets seulement 17. Et qu'en plus on trouve parmi ces 25 albums quelques très belles pièces de heavy symphonique. Alors c'est vrai que l'hyperactif Peavy est doté d'une créativité qui semble inépuisable et d'un talent de compositeur assez incroyable. Des talents qu'il a à nouveau mis à profit pour délivrer à travers Recreation Day 12 nouvelles compos racées, puissantes, épiques, qui donnent à l'ensemble une dimension très cinématique, très sombre aussi, mais qui conserve l'essence première d'un heavy lourd, d'un heavy guerrier que ne renierait certainement pas un Accept ou un Gravedigger. Alors le verdict, sans être révolutionnaire, Recreation Day, c'est un album qui rassemble à peu près tout ce qu'on peut attendre d'un disque de power symphonique réussi. Les compos sont entraînantes, la prestation de mettre Peavy toujours aussi convaincante et le duo de guitaristes composé de Gene Borman et Stefan Weber qui ont tous les deux rejoint les rangs du groupe l'an dernier apporte une véritable sensation de fraîcheur et de renouveau à l'ensemble. Voici donc un extrait de cet album avec le morceau Virginity. Tout de suite, c'est Rage sur Bike FM.
«
le heavy metal Deutsch Qualität du groupe Rage sur Bike FM 106 points dans l'émission Check Me Load, avec donc à l'instant le titre Virginity, extrait de l'album Resurrection Day, le 25e album studio du combo mené par Peter P.V. Wagner, album qui est dispo depuis aujourd'hui. Alors, dans la famille Power Metal Teuton, maintenant, je demande Brainstorm, qu'on peut considérer un peu comme le petit frère de Rage, et qui sort également ce 17 septembre un nouvel album qui s'appelle Wall of Skulls, sur lequel on retrouve quelques invités de marque, dont un certain Peavy. Bah oui, le même que dans Rage, fait un petit featuring. Alors si vous êtes sage, on l'écoutera tout à l'heure, ce petit featuring. C'est un groupe originaire du sud-ouest de l'Allemagne, Brainstorm. C'est un groupe qui a vu aussi le jour dans les années 80, mais un petit peu plus tard, en 89. Et ce sont les guitaristes Thorsten Ihlenfeld et Milan Lomkarik qui en sont les initiateurs. En 97, le groupe va sortir un premier album qui s'appelle Hungry, mais c'est seulement après l'intégration du chanteur Andy B. Frank, également frontman au sein de Simforce, et qu'on découvre sur l'album Ambiguity en 2000, que Brainstorm va commencer réellement à faire parler de lui. Suivront alors, durant la première partie des années 2000, plusieurs excellents opus, comme par exemple Soul Temptation, qui arrive en 2003, mais les choses vont un petit peu se gâter quand même ensuite, avec des albums plus mitigés. Et il faudra attendre 2014 pour voir le combo faire un retour plus éclatant avec l'album Fire Soul, qui, grâce à un jeu plus musclé, bah, tout en conservant une facette très mélodique, va permettre à Brainstorm de regagner les faveurs des médias et des amateurs de power metal. Alors, ce regain de popularité, il s'était confirmé avec Scary Creatures en 2016, et puis avec Midnight Ghost en 2018. Midnight Ghost qui se distinguait par son excellente production signée par Sibley du groupe Ordenogan, qu'on retrouve donc tout naturellement de nouveau à la prod de Wall of Skull, qui paraît aujourd'hui. Un album qui est d'ailleurs dans la droite lignée des albums précédents. C'est le 13e album de Brainstorm, et on y trouve 11 nouvelles compos solides, puissantes. On y trouve un subtil mélange de heavy, de thrash, de power mélodique qui rappelle par moments l'univers des américains Nevermore. Alors là encore, c'est pas un très très grand album, Wall of Skull, mais n'empêche que c'est un disque qui parvient à nous offrir un excellent moment de heavy metal, et il y a même quelques titres comme Where Ravens Fly ou Escape the Silence, sur lequel apparaît Peavy, qui pourront venir compléter les playlists des amateurs du genre. On écoute justement Escape the Fate, on va l'écouter, ce petit featuring de Brainstorm et du frontman de Rage. C'est tout de suite, c'est sur Bike FM, extrait donc de Wall of Skulls.
On the wheel, the body's wounds will never heal. From behind.
power metal aux accents trash de Brainstorm sur Back FM dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre Escape the Silence interprété en featuring avec PV du groupe Rage. Donc bah, la boucle est bouclée et on peut ainsi refermer ce chapitre heavy metal germanique pour revenir en France et pour parler de Fishing with Guns qui sort aujourd'hui le EP Under the Silver Lake qui est une tuerie. Alors c'est un groupe qui a été fondé il y a un peu plus de 15 ans. Ils sont parisiens. Le line-up se compose d'Inigo au chant, de Christophe et Mickey aux guitares, de Guillaume dit John Bouif à la basse et de Fred à la batterie. Et donc Fishing with Guns distille un hard rock and roll aussi délicat qu'un pachyderme qui fait irruption dans un salon. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça qu'on nous présente le groupe sur la fiche de promo qui accompagne ce nouvel EP. Et je trouve que ça résume excellemment bien le style du groupe qui n'avait plus rien sorti depuis l'EP Blood on the Ropes en 2017 et qui revient avec un son plus brutal, plus métal, plus massif. Il faut dire que Under the Silver Lake, il a été enregistré au studio Sainte-Marthe sous la houlette magique de Francis Cast, le maître des lieux. Avec Under the Silver Lake, Fishing with Guns fait un retour explosif et nous offre 5 déflagrations sonores efficaces, puissantes, accrocheuses. J'ai vraiment adoré cette EP et j'ai hâte d'en parler avec Christophe, qui est un des guitaristes, qui est aussi un des membres fondateurs. Il sera avec nous d'ici à les quelques instants, juste le temps d'écouter un premier extrait de Under the Silver Lake. Et c'est le titre All Skis que voici tout de suite pour vous. We'll be right back. Le vendredi, le métal fait son show sur Back FM. Bienvenue dans l'émission Check Melot si vous nous rejoignez. Et à l'instant, c'était le titre All Skis du groupe Fishing With Guns. Il s'agit d'un extrait de leur nouvelle EP qui s'appelle Under the Silver Lake, un disque paru aujourd'hui. Et pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir en ligne Christophe, qui est le guitariste de la formation. Salut Christophe.
Salut, ça va bien ?
Bah bien, et bienvenue sur Back FM surtout.
Eh ben merci à toi de me recevoir sur Back FM.
Donc aujourd'hui, grosse journée de promo hein, pour la sortie de ce nouvel EP. On va en parler bien sûr en détail au long de cette interview, mais juste avant, j'aimerais bien, si tu en es d'accord, qu'on fasse un peu les présentations pour nos auditeurs.
Ouais,
donc vous êtes un groupe parisien qui a vu le jour en 2005, donc déjà une belle carrière ouais. Derrière vous. Mais depuis, il s'est passé énormément de choses. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu le parcours de Fishing With Guns et bien jusqu'à ce 17 septembre 2021 et puis nous faire aussi un petit point sur le line-up actuel du groupe?
Alors je vais essayer d'être à la fois clair et synthétique, ça va pas être simple hein.
Mais du coup
<T'inquiète> effectivement
<pas.
rire> comme tu le disais, donc Fishing With Guns ça existe depuis 2005. Au départ en fait on était sur un line-up, on était 5 avec 2 guitaristes, un bassiste, un batteur et un chanteur.
D'accord.
Ce qui s'est passé chronologiquement, c'est que notre chanteur, notre premier chanteur, Jean, s'en est allé vers de nouvelles contrées, donc en Loire-Atlantique à Nantes, pour des raisons personnelles. Donc du coup, on a changé de chanteur. Et donc c'est là que Inigo est arrivé, donc notre chanteur actuel. Ensuite, Rémi, qui était notre deuxième guitariste de la formation initiale, pareil, s'en est allé. Et donc on est resté, donc on était 4 avec donc Inigo au chant, Max à la batterie, Guillaume, John Bouif, comme tu le verras sur certaines chroniques, à la basse et moi à la guitare. Donc on a enregistré le dernier EP Blood on the Rocks avec cette formation à 4. Et en fait, on disait qu'il manquait, il manquait un petit ingrédient. Quand on a fait quelques concerts, en fait, il nous manquait une deuxième gratte.
D'accord.
En live, autant sur EP ça le faisait parce que moi je faisais les deux grattes, autant ouais. En live il manquait quelque chose. Et donc c'est là que Mickey, donc notre deuxième guitariste, est arrivé. Donc je crois que c'était en 2018-2019, en gros avant le Covid.
D'accord.
Donc Mickey nous a rejoint et il a apporté beaucoup de trucs. On en reparlera, je pense, par la suite. Et allez, quelques mois après l'arrivée de Mickey, Max, donc notre batteur, est parti. Donc on a mis un petit peu de temps après à retrouver le bon batteur et Fred nous a rejoint maintenant il y a à peu près un an. Et
d'accord.
Donc là, on est voilà sur le line-up actuel stable, avec donc Fred à la batterie, Mickey et moi à la guitare, Inigo au chant et Guillaume à la basse.
Alors, du coup, sur la fiche promo qui accompagne la sortie de cette EP, j'ai bien aimé comment vous étiez présenté, puisqu'on nous dit que vous êtes un groupe de hard rock and roll qui débarque avec la délicatesse d'un pachyderme faisant irruption dans un salon. Et je trouve que cette description, elle est juste parfaite, quoi. C'est vrai que, à la manière un peu d'un Head Charger, mais en plus brutal, vous distillez ce cocktail super bien dosé qui mélange hardcore, metal, rock and roll, punk rock. Par exemple, à l'écoute des 5 titres qui composent Under the Silver Lake, moi j'ai entendu des influences qui semblent venir aussi bien du thrash que du death, du metalcore, du groove metal, du heavy, du punk hardcore. Alors c'est quoi l'univers musical des membres de Fishing With Guns?
Ouais, bah je pense que là vraiment t'as parfaitement décrit notre univers musical. C'est-à-dire qu'on a du mal à se mettre une étiquette et c'est notamment en raison de nos influences complètement diverses et variées. Autant moi je vais être influencé par les classiques metal, Sepultura, Pantera.
Ouais.
Même si aujourd'hui j'écoute évidemment autre chose, mais j'ai quand même été grandement influencé par ces groupes-là. Notre chanteur Inigo, lui en fait il a quand même une grosse culture. Lui parle de pop, mais en gros c'est des groupes style Thrice, Tool, Perfect Circle, ce genre de choses.
D'accord.
Donc avec vraiment des lignes de chant mélodiques.
Ouais.
Fred, notre nouveau batteur, alors lui il a une culture très hétéroclite. Il peut aussi bien écouter du Morbid Angel que du jazz. Tu vois, c'est assez c'est grand écart. Mickey, qui est donc le deuxième guitariste, lui va avoir une culture assez moderne en fait, avec des groupes de metal moderne, djent, il connaît très bien tout ce milieu là.
D'accord.
Donc avec des groupes que tu connais certainement, type Kadinja, The Dalí Sundering Concept, ouais. Monument, tous ces trucs-là, en fait. De métal très technique, très très cool aussi. Hein.
Et j'ai l'impression que c'est ça que Mickey a apporté sur cette EP.
Ouais, complètement, complètement. Il a apporté cette touche métal qu'on avait moins sur les albums et EP précédents. En fait, nous on était très punk, hardcore, hardcore and roll comme on le disait. Et lui, il a vraiment apporté cette touche de métal un peu plus moderne.
Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette EP, c'est que bah, dès que le bouton play il est enclenché, on est happé pour un peu plus de 20 minutes, mais c'est sans aucun temps mort. Du premier au dernier riff, les titres s'enchaînent tambour battant, les morceaux ils sont directs, sans concession, mais quand même avec ce qu'il faut de mélodie et puis de technicité, hein, on vient de l'aborder. L'atmosphère de l'EP, elle est sombre, intense, prenante. Alors, lorsque vous avez débuté le processus de composition, est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez ce résultat ou est-ce que ça s'est dessiné, mis en place au fil des compos?
Alors, ça s'est mis en place au fil des compos, mais assez rapidement. On s'est à peu près tous mis d'accord sur l'orientation musicale. Disons qu'on ne souhaitait plus faire ce qu'on avait fait sur l'EP précédent.
Donc, d'accord.
C'était quelque chose qui était beaucoup plus rock'n'roll. Donc c'est pour ça qu'on a écarté en fait des compos qui étaient plutôt dans la lignée de ce qu'on avait fait précédemment, en disant bon bah non, ça colle plus avec ce qu'on a envie de faire. Et on est vraiment parti assez rapidement sur quelque chose qui était davantage métal, et on est resté là-dessus. On est resté là-dessus tout en conservant l'aspect mélodique, en fait, l'aspect refrain qui nous est cher. Parce qu'on aime bien quand même que l'auditeur puisse se raccrocher à quelque chose dans ce tumulte de notes, de bruit. Donc ça permet quand même de se raccrocher à quelque chose. On aime bien cette balance entre, comme tu le disais tout à l'heure, ce point dans la gueule et ce petit côté... atmosphérique, musicale qui nous caractérise.
Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé dans l'EP, c'est que chaque titre, bah voilà, justement, a ce petit truc qui va accrocher à l'oreille, qui va faire que on va bien l'identifier par rapport à un autre. Et ça, c'est super agréable. Quoi. Et c'est vrai que l'EP, j'ai commencé de l'écouter, il était terminé, j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte, quoi.
C'est chouette.
Et je suis reparti pour
cool.
un tour, du coup.
C'est cool. C'était vraiment ce qu'on avait envie de créer, ce que nous on a vécu en écrivant, en enregistrant cet album, qu'on vous le fasse vivre à l'ensemble des auditeurs de l'EP, quoi. Non, c'est en tout cas ce que tu me dis, c'est vraiment cool.
Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous avez choisi le format EP avec 5 titres? Est-ce que vous avez été tenté de faire un album un peu plus long ou pas du tout? C'était vraiment un choix.
Initialement, on voulait faire un album avec davantage de titres, et en fait, les aléas de la vie. Plus la crise sanitaire qu'on a traversée, on fait que on n'a pas eu le temps. En fait, on n'a pas eu le temps de composer autant qu'on aurait souhaité le faire. Et à côté de ça, on voulait pas non plus attendre encore un an et demi, deux ans le temps de composer encore 4 ou 5 morceaux. On voulait vraiment en fait mettre en boîte les 5 titres de l'EP parce qu'on trouvait qu'ils défonçaient déjà. Et puis on voulait aussi marquer le nouveau line-up avec Mickey à la gratte, Fred à la batterie, et justement avec cette EP, cette nouvelle orientation musicale, démarcher derrière pour essayer de faire un max de concerts.
Alors là, en ce moment, il y a beaucoup de productions qui sortent, qui sont entre guillemets le fruit du confinement. Est-ce que c'est le cas de Under the Silver Lake ou pas du tout? Vous avez composé avant?
Alors en partie, on avait commencé à le composer avant, et effectivement, pendant le confinement, ça s'est terminé. Mais non, je dirais pas que c'est le fruit du confinement, hein, parce que l'EP, on l'a enregistré, on était en octobre 2020.
D'accord.
Donc, grosso modo, on avait quand même pas mal d'idées en boîte, et il fallait juste finaliser un ou deux titres de souvenirs pour pouvoir aller en studio à Sainte-Marthe avec Francis Cast.
Justement, voilà, Francis Cast, c'est un magicien du son rock metal en France. Hein. C'est vrai que quand on regarde son CV, c'est impressionnant. Alors du coup, j'ai écouté Blood on the Ropes, et puis ensuite j'ai enchaîné avec le nouvel EP, et le son de Under the Silver Lake, à côté, il est énorme. Il y a une prod que j'ai trouvé bien plus massive, mais avec bien plus de relief. Est-ce que vous êtes content de cette collaboration avec Francis Cast, et est-ce que son expérience a été bénéfique?
Alors on est hyper content, hyper satisfait de la collaboration avec Francis, hein, aussi bien artistiquement qu'humainement. C'est un mec qui est super cool, on s'est super bien entendu avec lui, et puis artistiquement il a évidemment apporté sa patte, hein, mais il n'est pas le type d'ingé son de producteur en fait à vouloir s'imposer sa touche. Il est vraiment à l'écoute en fait du groupe et c'est toi en fait qui va lui dire bah moi j'aimerais bien qu'on sonne comme tel ou tel autre groupe. Donc en fait on lui donne les influences et la direction artistique qu'on aimerait prendre et lui bah, avec son expérience, son talent, bah il arrive à coller à trouver des idées, des mix, des arrangements qui font que in fine c'est exactement ce qu'on avait en tête quoi. Mec est fort quoi.
C'est vrai qu'il a vraiment un don pour capter l'univers d'un groupe. Si on prend des groupes comme Bukowski, si on prend Handman's Share,
exactement.
Il a vraiment le
T'as
don.
Rien
pour...
à voir comme ouais. type de prod, de groupe, et pourtant c'est les mêmes mecs aux manettes derrière.
Alors j'ai lu dans le livret de l'EP que la section rythmique elle avait été enregistrée par Martin Grenier donc de The Dali Sundari Concept pour la basse et par Morgan Berthet justement de Kadinja que tu évoquais tout à l'heure et Muras pour la batterie. Où était passé votre bassiste et votre batteur à ce moment-là?
Alors c'est une très bonne question. Alors notre batteur, il se trouvait qu'à l'époque on n'en avait plus.
D'accord, donc il n'a pas encore intégré les rangs du groupe.
Voilà, on n'avait plus de batteur et en fait notre bassiste, lui, il avait trouvé la bonne idée de se coincer les doigts dans une portière de bagnole.
D'accord.
Donc lui, il ne pouvait plus donc jouer de basse, donc enregistrer donc ses pistes pour l'enregistrement de l'EP. Ensuite, on a eu du bol, c'est que donc Mickey avait un petit réseau de par ses précédentes expériences musicales. Donc en fait, il a appelé son pote Martin Grenier, c'est l'actuel batteur de The Dali Sundari Concept. Et Mickey, c'était l'ancien batteur.
D'accord.
Et ils ont fait la même école d'ingé son, etc. Donc ils se connaissent hyper bien, ils sont super potes. Donc toujours est-il que du coup, il a appelé Martin, qui je crois connaissait plutôt pas mal Morgan Berthet. Et de fil en aiguille, on a réussi à avoir Morgan en fait en session studio. Et du coup, Morgan, il a rentré les pistes batteries que Mickey avait écrites parce que comme je te le disais, Mickey c'est un ancien batteur, donc ouais. il avait composé toutes les pistes batteries de l'EP.
D'accord.
Morgan, il a rentré ça les doigts dans le nez en y ajoutant ses fils. Enfin bref, le mec c'est un monstre. Hein. Et puis Martin il a donc des talents de batteur mais il est aussi bassiste à 16 heures perdues et donc du coup lui il a enregistré toutes les basses de l'EP et derrière Francis les a réampées et voilà on avait et la batterie et les pistes de basse pour notre EP.
J'aimerais qu'on s'intéresse aussi à l'artwork de l'EP qui est ouais. très sympa aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tout d'abord, il y a cette pochette en noir et blanc. Je trouvais que ça faisait très affiche de film, couverture de livre. On y voit cet homme en noir qui se dirige vers une barque et ouais. qui semble presque guider l'auditeur vers le périple musical qu'on va retrouver sur l'EP. Et puis aussi, ces très belles illustrations à l'intérieur du disque. Alors, tout est l'œuvre de Max Treillard, c'est ça ?
C'est exactement ça, oui.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de cet artiste et puis aussi sur la façon dont il a travaillé sur l'EP ?
Alors, Max Treillard, en fait, c'est Maxime, son vrai prénom.
D'accord.
Et il aime bien qu'on l'appelle Maxime. Et en fait, donc, c'est notre ancien batteur. Donc, en fait, on a joué ensemble plus d'une dizaine d'années, donc on est hyper potes. Et du coup, donc, il a quitté en fait Fishim pour raisons personnelles. Et pour autant, quand on a pensé à quelqu'un pour réaliser les visuels de cet album, on a tout de suite pensé à Max. En fait, on l'a appelé en lui demandant si lui ça le bottait aussi, s'il avait le temps de le faire. Ce à quoi il a répondu qu'il était carrément chaud. En fait, on lui a donné tout plein d'idées. Nos idées devaient certainement être toutes pourries parce qu'il en a suivi aucune. Et il a fait en fait. Il a fait ça à sa sauce avec ce qu'il avait en tête et ça rend ce que tu viens de décrire donc un truc qui est super cool, on est tous super contents de ce qu'il a fait.
Alors puisqu'on parle image, le 31 août en guise d'avant-goût de l'EP, vous aviez révélé la lyrique vidéo du morceau All Skis qu'on a écouté juste avant l'interview. Est-ce que vous projetez de publier prochainement un clip pour illustrer un autre de ces titres de l'EP ?
Alors oui, normalement prochainement on a quelque chose qui est en cours pour illustrer le morceau Homeless Ghost.
Okay.
Ce sera un clip, mais par contre, je saurais pas te donner de date. Ça a été tourné. Après, il y a pas mal de post-prod à réaliser. Et là, comme c'est pas évidemment pas moi qui le fais, je peux pas m'engager sur deux dates.
Et c'est marrant parce que Homeless Ghost, c'est le morceau qu'on écoutera tout à l'heure, c'est celui que j'avais sélectionné.
Eh ben voilà, comme quoi.
Bon bah ça y est, hein, du coup le grand jour est arrivé, le P Under the Silver Lake, il est dans les bacs, donc bah j'imagine que maintenant vous avez super hâte d'aller le défendre sur scène, parce que bon bah voilà, c'est bien le studio, mais le live c'est encore autre chose. Est-ce que malgré le contexte sanitaire qui est encore compliqué, encore incertain, vous avez déjà pu caler quelques dates?
Malheureusement non. Là à date on n'a pas de concert de prévu. On espère pouvoir faire quelques dates d'ici la fin de l'année, mais on n'a pas de visibilité. Hein. Là-dessus, c'est compliqué, on le voit bien. Même pour des grosses pointures, des concerts qui sont planifiés, qui sont finalement annulés, reportés en 2022. Donc bon, je pourrais pas te dire qu'on joue tel jour, tel lieu. On espère jouer le plus rapidement possible. Voilà, sur de belles dates, sur de belles scènes, ce serait notre kiff à tous là. Mais j'ai pas de visibilité là-dessus.
Bah, de toute façon, ce qu'on peut faire, c'est vous suivre sur les réseaux sociaux et puis comme ça, on sera informé au moment venu, puisque on vous trouve sur Facebook, sur Insta, je crois.
Ouais, tout à fait.
Donc, en attendant, je rappelle que votre nouvel EP Under the Silver Lake, il est disponible depuis aujourd'hui en format numérique, streaming, téléchargement. Est-ce que la version physique est dispo également?
Elle est disponible sur Bandcamp, je crois.
Eh ben, impeccable. Donc, ceux qui ont envie d'avoir un bel objet, vous pouvez également vous acheter le CD. Et merci de nous avoir consacré un peu de temps.
Avec plaisir. Merci à toi d'avoir pris le temps de cette interview.
Eh ben, plaisir partagé.
Eh ben, c'est sympa. Et puis, j'invite tous tes auditeurs à venir sur toutes les plateformes, écouter notre nouvelle EP. Et j'espère qu'il va plaire au plus grand nombre.
Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas, et c'est un plaisir de diffuser un second extrait aux auditeurs. Et comme je l'ai déjà révélé tout à l'heure, j'avais choisi le titre Homeless Ghost, sans savoir que tu allais nous annoncer que le clip était en...
C'est un super choix, super choix. J'aurais fait le même choix.
Eh ben, impeccable. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce nouvel EP, peut-être un album prochain.
Eh ben, c'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter, j'espère aussi. Et puis, en tout cas, merci à toi. Merci à tous, et puis j'espère à très bientôt en concert.
Peut-être sur les routes. À bientôt.
Exactement.
Christophe, voici
Salut.
Tout de suite Fishing with Guns avec Homeless Ghost. Homeless Ghost du groupe Fishing With Guns sur Back FM, qui fera prochainement donc ce titre-là l'objet d'un clip et que vous pouvez retrouver dès maintenant sur l'EP Under the Silver Lake qui paraît donc aujourd'hui, qui est disponible en streaming et puis en streaming et en téléchargement si vous aimez utiliser les plateformes habituelles, hein. Je pense qu'il est sur toutes les principales plateformes que vous connaissez. Et puis si vous êtes des puristes et que vous préférez un bon vieil objet, un format CD, vous pouvez vous le procurer via le Bandcamp du groupe. Voilà, si jamais vous venez de nous rejoindre sur Back FM, eh bien vous venez de manquer l'interview de Christophe qui est un des guitaristes de Fishing With Guns, mais bah, grâce à la technologie elle sera disponible en podcast dès lundi sur le site de Back FM et puis bien sûr sur les applis smartphone et tablette. Vendredi dernier, le monde du rock célébrait en grande pompe les 30 ans du mythique Black Album de Metallica avec la sortie en divers formats de l'album réédité et puis avec la sortie d'une compilation réunissant 53 reprises des titres du Black Album avec des revisites signées d'artistes de tout genre, de tous horizons et de toutes générations qui montrent à quel point le Black Album a contribué à l'histoire du rock et est devenu une influence à la fois majeure et durable. Alors c'est vrai que c'est ce que j'ai dit la semaine dernière dans l'émission quand je vous ai présenté cette compilation, j'ai pas apprécié toutes les revisites, loin de là même, mais alors ça c'est très subjectif, c'est une question de sensibilité, de goût, et s'il y en a que j'ai détesté, j'en ai adoré d'autres, parce que alors soit elles sont signées d'artistes métal que j'apprécie, soit parce que j'ai trouvé la prouesse de certains artistes absolument géniale, comme c'est le cas du groupe de punk britannique Idols, qui s'approprie littéralement le titre The God That Failed et qui nous livre une version aussi originale que personnelle de l'œuvre de Metallica. Aujourd'hui, on va donc un peu bousculer les règles habituelles de la rubrique Sortez Cover et on va écouter un morceau qui est à l'origine heavy metal et qui est repris à la sauce punk. Donc on fait un peu l'inverse, même si j'aime bien intégrer un peu de punk dans cette émission, puisque le punk c'est quand même le cousin direct du metal, et qu'en général quand on aime le metal, on aime le punk, et des fois vice versa aussi. Donc bah, j'ai pas résisté moi à l'envie de partager avec vous cette revisite de Idols, qui au passage est une formation que je trouve également géniale. Alors Idols, ils sont originaires de Bristol, c'est un groupe qui à ce jour a sorti 3 albums, il est actif depuis 2009, il est mené par le survolté Joe Talbot et il distille un punk rock furieux, radical et engagé. À l'image de son titre, Danny Nedelko, que vous avez probablement écouté très souvent sur les ondes de Back FM, qui est devenu un véritable hymne à la tolérance et à la diversité culturelle, et que vous pouvez trouver dans l'album Joy as an Act of Resistance, paru en 2018. Concernant maintenant la revisite du morceau The God That Failed, qui à l'origine se trouve sur la plage 10 du Black Album, alors que la version de Metallica, la version donc originale, propose un son lourd, plutôt rond, avec un riff presque lancinant, la version qu'en propose Idols, elle est écorchée vive, avec un son cru, un chant rageur à fleur de peau, qui rappelle énormément la façon de chanter de Jello Biafra à la grande époque des Dead Kennedys, là où le chant de James Hetfield, il est amer à propos de ce dieu qui échoue à nous venir en aide et qui en l'occurrence a échoué à aider sa mère qui n'a pas pu guérir du cancer, et c'est très différent dans la version de Idols puisque le chant de Joe Talbot, lui, il est empli de colère, de rage. Joe Talbot ne se lamente pas, il dénonce. Alors on est sur deux versions voilà, qui sont radicalement différentes de la chanson. Le thème est profondément le même, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas résoudre tous les problèmes des humains, mais sauf que voilà, faut pas lui faire une confiance aveugle, comme ça a été le cas de la mère de James Hetfield, et comme c'est le cas de certains hommes qui font des choses innommables au nom d'un dieu. Donc, maintenant que ceci est dit, je vous propose de découvrir The God That Failed Metallica, revue et corrigée à la sauce punk par Idols, une version disponible sur la compilation The Metallica Blacklist, qui réunit, je le rappelle, 53 artistes, et surtout dont les bénéfices seront reversés à une cinquantaine d'œuvres caritatives, donc ça c'est très très bien. Quant à nous, bah, si tout va bien, on se donne rendez-vous même heure, même station, vendredi prochain, avec normalement des nouveautés et une interview. En attendant, stay metal, stay rock and roll. Salut à tous, excellent week-end sur Back FM.